France Inter.
Bonjour, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1942, Hélène Baer, française, juive et écrivaine. La publication en 2008 du journal d'Hélène Baer fut en France un événement, un choc, bientôt suivi par plus de 45 éditions étrangères. Plus de 60 ans après son assassinat par les nazis, le monde entier découvrait Hélène Baer, cette jeune française juive qui, de 1942 à 1944, avait tenu son journal dans le Paris occupé par les nazis. Commencée dans le semblant d'insouciance d'avril 1942, c'est le printemps, Hélène est jeune, douée, elle aime la littérature et la musique, elle est amoureuse, pleine d'appétit de vivre. Le journal, cependant, au fil des jours, au fil des mois, va s'obscurcir. Avec le port de l'étoile jaune, les persécutions qui s'intensifient et la menace chaque jour plus pesante sur elle et sa famille d'une arrestation, celle qui aimait tant rire ne rit plus. Sous la plume vive d'Hélène Baer, véritable écrivaine, on découvre également une conscience solitaire qui s'aiguise, révoltée par le triomphe du mal, mais aussi par l'indifférence de ceux qui refusent de voir.
France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire.
Tal Brutman, bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de la Shoah. Le journal d'Hélène Baer, donc tenu entre avril 1942 et février 1944, a été publié tardivement, en 2008, je l'ai dit. On connaissait le journal d'Anne Frank, publié lui dès 1947. Alors, qu'est-ce que le texte d'Hélène Baer a apporté de nouveau à la connaissance historique de la Shoah, et puis à vous peut-être en particulier ?
Alors, énormément de choses. Pour répondre simplement d'entrée, mais il faut comprendre qu'on dispose de pas mal de journaux à travers l'Europe tenus par des victimes juives ou par des gens qui vivaient les événements et qui ne sont pas forcément juifs. Le journal d'Anne Frank est rentré dans la conscience internationale pour tout un ensemble de raisons. C'est une jeune adolescente qui s'interroge sur sa vie en général. Avec Hélène Baer, on est affaire à quelque chose de totalement différent. Le journal d'Anne Frank, c'est un journal de l'enfermement. Hélène Baer, elle, pour des raisons qu'on va évoquer, continue à vivre, mais c'est pas une adolescente, c'est une jeune femme, et en plus, comme Anne Frank, c'est une jeune femme brillante. Les deux savent écrire magnifiquement, Hélène Baer peut-être encore mieux, mais surtout ce journal-là fait partie des journaux qui sont extrêmement fins en matière non seulement d'écriture, mais d'analyse, de narration, de recul sur ce qui est en train de se passer, et en fait qui montre la réalité de ce que c'était pour les contemporains. Et c'est tout ça qui fait la richesse de ce texte qui est vraiment extraordinaire.
Alors, l'histoire que je vais raconter commence en avril 1942 à Paris. Quelle est à ce moment-là la situation des Juifs en France, Juifs français et Juifs étrangers, et particulièrement en zone occupée, donc là où... Alors,
déjà, il y a plusieurs France, zone occupée et zone libre, même la zone rattachée avec Lille qui est rattachée au gouvernement militaire allemand de Bruxelles. Mais en zone occupée, et particulièrement à Paris, il y a quelque chose de très important qu'il faut avoir en tête. Les violences contre les Juifs n'ont cessé de se démultiplier entre l'été 1940 et le printemps 1942. En fait, à l'été 40, les Allemands vont inciter et exciter les ultra-collaborateurs à aller casser les vitrines des magasins juifs et s'attaquer aux personnes. Puis, au printemps 41, on va avoir une première grande rave, dite la rave du billet vert, où plus de 3700 Juifs étrangers vont être arrêtés. Donc, jusqu'à l'été 41, on est face à une persécution contre les Juifs dans leur ensemble, mais où la violence, les arrestations se fixent sur les hommes et sur les hommes étrangers. Et puis, plus on arrive vers la fin de l'année 41, il faut vraiment insister sur une chose fondamentale, les deux textes majeurs, Statut des Juifs du 3 octobre 40 et Première Ordonnance allemande du 27 septembre 40, mais qui sortent à peu près en même temps, visent les Juifs. Ils font pas de différence ni entre Juifs étrangers, ni entre Juifs français. Il n'y a qu'une race, la race juive. Et c'est vraiment ça le cœur de ce qui se passe. Les Juifs sont persécutés. Les étrangers plus facilement que les Français, parce que il faut pas brusquer l'opinion publique, mais en même temps, les Français subissent la même forme de persécution, et fin 41, l'ensemble des Juifs sont logés à la même enseigne en matière de violence, notamment les synagogues au cœur de Paris, il y a 7 synagogues qui sont dynamitées par la police allemande et des ultra-collabos français. Donc c'est vraiment quelque chose de généralisé, il n'y a pas de différence, hormis une jusqu'à ce moment-là, qui est une différence de genre. Les femmes et les enfants, jusqu'au printemps 42, sont épargnés par ces violences.
Ce qui ne va bientôt être plus le cas. Jusqu'à la parution de son journal, Hélène Berre était une inconnue, un nom parmi les 76 000 juifs de France qui ont été déportés par les nazis dans les camps de la mort, avec souvent la complicité du gouvernement de Vichy. Qui est cette jeune femme ?
D'abord, c'est une jeune femme, tout ce qu'il y a de plus normal. Enfin, c'est une au moment où la guerre débute, elle est en fin d'adolescence, et c'est une adolescente normale, scolarisée à Paris.
Plutôt bonne élève.
Sauf que c'est une élève, je dirais même, plus que bonne, elle est brillante. Ouais. Elle est issue d'une petite bourgeoisie parisienne. Son père travaille dans une grande entreprise où il est cadre supérieur. Et ils sont par ailleurs juifs. C'est ce qu'on appelle à l'époque les Israélites, qui font partie de la communauté juive qui vit à Paris. Et
depuis
qui est
très longtemps. Voilà,
qui sont français de, on pourrait dire, de toute éternité.
De toute éternité.
Donc c'est vraiment Hélène Berre, c'est un peu le même judaïsme que Simone Veil par exemple, alors que l'immense majorité, et c'est pas une critique, mais l'immense majorité de ceux qui vont devenir les victimes de la déportation sont ce qu'on appelle des petits juifs de Belleville ou d'autres quartiers populaires avant tout. Hélène Berre, elle montre une autre face du judaïsme français qui est une réalité aussi, ce judaïsme qui existe depuis avant même la Révolution et qui fait partie de la société française.
Et Hélène Berre, donc, est une étudiante brillante. Elle fait des études d'anglais, elle adore la littérature anglaise et elle se destine à être professeure. Elle veut passer l'agrégation.
Elle veut passer la grec d'anglais.
Mais...
Sauf que là, les mesures, enfin les lois françaises et allemandes, mais surtout françaises, l'empêchent de passer l'agrégation. Autrement dit, on a une élève brillante qui, à partir de 1941-1942, son élan est coupé net dans ses études. On lui fait savoir qu'elle n'est plus désirable et qu'elle doit se trouver une autre vocation que celle à laquelle elle se destinait avant même la fin de ses études au lycée.
Merci Tal Brutmann. On reprend tout à l'heure cette discussion, si vous voulez bien. Tout de suite, 1942, Hélène Berre, française, juive et écrivaine, un texte de Jean-Baptiste Sabiani, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Cédric Ossir.
Défilez, les Allemands. Défilez. Ma ville ne vous appartiendra jamais. Vous ne gagnerez pas la guerre, même si vous semez le malheur. Nous pourrions fuir en zone non occupée, rejoindre Odile et sa famille. Mais comme papa, je veux vraiment rester à Paris. Partir, ce serait céder à l'ennemi. Mais c'est étrange. Je me sens dans une bulle au milieu de l'espèce d'enfer où je vis. Accepter cette invitation est tout à fait naturel, m'a dit maman. Mais il me trouble, ce garçon que je ne connais pas. Parce qu'il ressemble à un prince slave. Nous allons juste écouter quelques disques. Si douce la lumière et si beau ce bleu vivant, comme me l'a écrit Paul Valéry. Que Paris est belle. Le voilà, le prince, exact comme un roi.
En cette belle journée de printemps, Hélène Berre, comme tous les jours, quitte le vaste domicile familial près de la Tour Eiffel pour se rendre à la Sorbonne. Mais ce jour-là, ce n'est pas pour étudier. Un jeune homme aux yeux gris qu'elle observe depuis plusieurs mois, Jean Morawiecki, a enfin osé l'aborder à la bibliothèque et l'inviter à écouter des disques. Un rendez-vous bien naturel pour cette élégante jeune fille de 21 ans, violoniste émérite, qui se découvre aussi un goût et un talent pour l'écriture. Une jeune femme en apparence privilégiée, mais nous sommes le 30 avril 1942 et Hélène est juive.
C'est extraordinaire. Merci pour toutes ces belles œuvres. Je dois m'en aller.
Déjà ? Mais il reste... L'eau funèbre de Mozart, écoutez. Vous restez.
Bon. D'accord. C'est très beau. Mais effectivement, c'est funèbre. Alors que le soleil entre à flot et que le miracle de la clarté se produit, cette musique nous ramène au moment tragique que nous vivons.
Vous ne finissez pas votre thé ?
Ah, oui, tiens. Non, merci.
Il était si mauvais ?
J'ai passé une après-midi vraiment très agréable. Mais je dois partir. Je dois travailler sur mon sujet de thèse.
Elle porte sur quoi ?
Sur le poète anglais Keats. Ce sera sûrement son lien à la mythologie grecque.
Vous avez un goût pour le tragique ?
Je fais le tri entre les choses belles et les autres. C'est pour ça que je suis convaincue. À la différence de beaucoup de mes amis, que les Allemands perdront la guerre. Parce qu'ils ne laissent pas tout le monde jouir des choses aussi belles et simples que la lumière et l'eau. Ou la belle musique que vous m'avez fait écouter tout l'après-midi.
Nous pourrions recommencer ?
Eh bien, venez dimanche à la maison. Je joue du violon jusqu'à 4h. Je vous attends à 4h30. Vous connaîtrez ma famille ?
Avec plaisir. Vous m'autorisez à vous raccompagner ?
Well... The pleasure, the privilege is mine. C'est magique. Ce mouvement est de la pure poésie, entre rêve et réalité. C'est un peu ce que je vis depuis l'autre après-midi avec Jean. J'aimerais lui jouer ses arabesques. Il y a ce lien entre nous, quand je lui joue de la musique, et quand nous en écoutons, ensemble. C'est la première personne avec qui je ressens cela. À chaque fois que... C'est toi, maman ? Je suis déjà rentrée. Maman ? Maman ? Je devais travailler sur mon projet de thèse, mais l'envie d'écouter le concerto de Beethoven a été la plus forte.
Non, ma chérie, bonjour.
Je vais demander à Madame Jourdan de me le faire travailler.
C'est très bien. Très, très bonne idée.
Tu as prévu quelque chose pour le goûter ?
Il faut que je te parle.
Oui, bien sûr.
Viens, allons dans le salon. Assieds-toi. Voilà. Je reviens du commissariat.
Du commissariat ? Pourquoi ?
Il y a une nouvelle ordonnance qui vient d'être édictée. Nous allons devoir porter dans tous les lieux publics un insigne qui montre que nous sommes juifs.
Quoi ?
Ce sera obligatoire à partir du 7 juin, à la fin de la semaine.
C'est pas possible. Nous ne sommes pas concernés.
Tous les juifs de plus de 6 ans, étrangers et français.
Mais pourquoi ? Pourquoi maintenant ?
Il faut coudre les insignes. Tu me donneras ton...
Je refuse de parler de ça maintenant.
Hélène.
Un insigne.
Hélène.
Une marque d'infamie, bien visible. Une nouvelle crécelle pour les nouveaux lépreux. Nous sommes français, nous sommes patriotes depuis des générations. Mais j'ai tort de montrer ma colère. Je ne pense pas assez à maman. Ma peine ne peut pas passer avant la sienne. Nous sommes habitués à ce qu'elle soit toujours présente pour nous, alors je dois être forte pour elle.
C'est ça ?
Oui. Les étoiles que nous devons porter. À 6 branches, en tissu jaune et juif marqué dessus. Nous devrons l'arborer dès que nous serons dans un lieu public.
Nous n'en aurons jamais assez pour mettre sur tous les costumes de ton père.
C'est une loi allemande. Les Allemands imposent ça dans tous les pays qu'ils ont envahis. Porter cet insigne, c'est se soumettre à eux.
Nous sommes obligés.
Le porter, c'est être séparé de nos compatriotes. Séparés dans la rue, à l'université, au concert, marqués comme des bêtes.
Ce n'est peut-être que provisoire.
C'est une loi allemande.
Viens dans mes bras, ma chérie. Je sais que c'est difficile, inique, détestable. Nous ressentons tous la même chose. Tu seras raisonnable.
Et les enfants dont je m'occupe? Non seulement leurs parents ont été arrêtés parce qu'ils sont juifs, ils comprennent déjà pas ce qui se passe et maintenant, ils devront porter ce signe immonde.
Mais que pouvons-nous faire? Les Allemands sont les plus forts.
Pour l'instant, ils sont les plus forts. Mais ce n'est pas pour cela que je le porterai.
Tu le porteras?
Oui. Mais pour être aux côtés de ceux qu'ils porteront. De ceux que les barbares veulent désigner comme des êtres de rien, alors que dans chaque être humain vit l'humanité même. Contre ces brutes d'Allemands, pourtant héritiers d'une grande culture qu'un fou et sa clique manipulent, et dont ils détruisent la conscience depuis 10 ans, je le porterai. Je serai toujours digne et élégante. Je leur montrerai. Oh, je vais prendre l'air pour profiter quand même de cette merveilleuse fin de journée. Tu as besoin de quelque chose?
Non. Ne t'embête pas. À tout à l'heure.
À plus tard, maman.
L'étoile jaune. Comment mettre une sur chaque costume de Raymond?
Oui, je la porterai, cette étoile. Avec courage et en conscience. Il faut affronter cette sauvagerie. Je ne dois plus m'opposer à maman. Je dois la protéger. Il faut que j'écrive tout cela dans mon journal, pour m'en souvenir plus tard, pour garder une trace de ce cauchemar que devient la réalité.
Le 8 juin 1942, Hélène, pour la première fois, sort avec l'étoile jaune sur sa poitrine pour se rendre au Quartier Latin. Interdite de présenter le concours de l'agrégation parce qu'elle est juive, elle conserve néanmoins des vacations de bibliothécaire à la Sorbonne.
Porter cette chose est encore plus difficile que je ne me l'imaginais. Tiens, mon prince. On dirait qu'il me cherche. À 5 minutes près, nous nous manquions.
Bonjour, Hélène.
Quelle bonne surprise.
Il fait bon ici. Vous avez baissé les stores?
Vous venez travailler ou vous me cherchiez?
Je me disais, vous étiez peut-être là.
Vous me trouvez de justesse. C'est la fin de ma vacation, j'allais partir.
D'accord. Vous savez, je viens de prendre des places pour le concert d'après-demain. Ça vous dirait de m'accompagner?
C'est très gentil. Oui, je suis libre. Nous repartons ensemble. Nous en discuterons en chemin. Je prends ma veste. Il ne sait pas que nous sommes juifs. Je verrai bien sa réaction.
Vous permettez? Je vais vous aider à la mettre.
Merci.
Tenez.
Merci, j'ai pas l'habitude. J'ai une impression de luxe. Voilà. Il doit l'avoir vu. Je n'ose pas le regarder en face. Ces secondes sont interminables. Il ne dit rien.
Lève la tête, ma fille.
Il est encore plus pâle qu'il y a 10 secondes. Il fait trop chaud, j'enlève ma veste.
Quoi que vous fassiez, je suis avec vous. Je vous raccompagne. Pourquoi?
Oh, c'est complètement idiot. Mais c'est horriblement gênant. Vous pourriez croire que je me moque de vous, mais pas du tout. Hein. Je ris d'une chose si bête, j'aurais le rouge au front de vous la rapporter.
Je crois pas que vous puissiez rire d'une chose bête.
C'est encore plus stupide que vous pouvez l'imaginer. Bon, nous sommes en juin. Et j'avais l'impression d'être dans le poème de Heine, le premier des Dichterliebe de Schumann. Mais qui se passe en mai. L'impression d'être en mai alors qu'on est en juin, ça m'a fait rire, vous voyez, c'est idiot.
Ah oui, au merveilleux mois de mai, comme tous les bourgeons éclataient dans mon cœur aussi.
L'amour est éclos.
Ah, vous aimez Heinrich Heine? Vous connaissez bien Paul Valéry?
Non, pas très bien. Je ne lui ai parlé qu'une fois.
Vous lui avez parlé?
Oui, en Espagne. Mon père travaille dans les ambassades, Paul Valéry était là. Quel génie.
Je vous envie. Il y a quelques semaines, j'ai été d'une audace folle qui a épaté toute ma famille. J'ai osé aller chez lui, récupérer un livre que je lui avais demandé de me dédicacer. J'ai vu que sa concierge, mais j'ai eu mon exemplaire dédicacé. exemplaire de Mademoiselle Baird. Au réveil, si douce la lumière et si beau ce bleu vivant, Paul Valéry.
C'est très beau. Vous aimez le 15e quatuor de Beethoven ?
Je ne le connais pas. J'apprends le 7e en ce moment. Merveilleux.
Nous pourrions l'écouter ensemble. Je peux l'apporter chez vous.
Chez moi ? Oui, ce serait une bonne idée.
J'ai trouvé votre famille très sympathique. Ce serait bien de...
Entendu.
Je dois partir maintenant. On m'a pris rendez-vous chez le tailleur et j'ai déjà une heure de retard.
Une heure ? D'accord. Eh bien, peut-être à demain, si vous passez par la bibliothèque.
J'ai prévu d'y aller. À demain, Hélène. Et nous avons le concert après-demain.
Qu'il est gentil. Je me demande ce qu'il pense de l'étoile. Il n'a rien dit quand il l'a vue, ni quand j'ai remis ma veste. La portée est plus dure que je ne l'imaginais. Qu'est-ce qui est le plus cruel ? Les enfants qui montrent du doigt et qui rient, t'as vu, c'est une juive ? Les regards sur la bête curieuse auxquels je réponds en fixant droit dans les yeux, fièrement ? Non. C'est de croiser des gens qui la portent aussi. Heureusement, la sympathie des gens du peuple ou des personnes distinguées m'aide à ne pas fondre en larmes, comme je le ferais si je me laissais aller. Je ne dois surtout pas pleurer devant maman.
Imposé par les Allemands seulement en zone occupée, le port de l'étoile jaune est un moment clé de l'aggravation de la persécution des Juifs. Les personnes non ou mal étoilées sont arrêtées par la police et incarcérées au camp de Drancy, d'où les premiers trains pour Auschwitz partent dès le 5 juin 1942. Le 23 juin, Raymond Baird, le père d'Hélène, est arrêté au siège de la société Kuhlmann, 11e capitalisation boursière française avant-guerre, dont il est vice-président directeur général. Ce polytechnicien, ingénieur des mines, médaille de guerre 14-18 et chevalier de la Légion d'honneur, se voit reprocher de porter l'étoile agrafée et non cousue. Interrogé par les services français et allemands, il est conduit à la préfecture de police, où il est autorisé à recevoir une visite avant d'être transféré à Drancy.
Ça va, maman ?
Ne t'inquiète pas pour moi. Écoute, si tu as peur de ce que tu peux voir, tu peux toujours, enfin, je comprendrai. Tu comprends si jamais...
J'ai très envie de voir papa. Jusqu'ici, cette histoire pouvait ne pas s'être passée. Mais cet endroit, ces fonctionnaires de police qui font leur travail par routine, ces prisonniers menottés, tout cela la rend vraie. Elle le sera complètement quand je verrai papa.
C'est ici.
Oui ?
Excusez-moi, je cherche mon mari, Monsieur Baird. On m'a dit que... Ah ! Raymond, tu es là ? C'est ici, Hélène.
Ma femme et une de mes filles, Monsieur l'agent.
C'est bien.
Merci.
Tu as pu me trouver. Viens, on peut s'isoler, là. Eh bien, Hélène, ne me regarde pas comme ça, je vais bien.
Excuse-moi. C'est juste de te voir sans cravate.
On va me la rendre. C'est pour éviter les accidents. Un homme s'est pendu hier.
Oh, quelle horreur ! Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Pourquoi es-tu là ?
On vous l'a dit, non ? Un inspecteur m'a arrêté, parce que mon étoile était agrafée et pas cousue. Il m'a interrogé, ça s'est bien passé. Mais des Allemands ont voulu aussi m'interroger. Et ce sont eux qui veulent me garder.
Ah, c'est ridicule. Avec les agrafes et les pressions, on peut les mettre sur tous les costumes.
Oui, mais comme on me l'a dit, à Drancy, les étoiles sont cousues.
À Drancy ? Tu vas vraiment aller là-bas ?
Vous avez les affaires que l'inspecteur vous a dit d'apporter ?
Oui, je t'ai pris un thermos, une brosse à dents, du dentifrice et de l'alcool de menthe.
J'ai préparé les vêtements que tu voulais.
Antoinette, tu voudras bien coudre mon étoile ? Ils ne plaisantent pas avec la couture, ces jeunes gens.
Comment te sens-tu ?
Pas à ma place. Il y a des choses amusantes. Tu vois tous ces policiers ? Ils sont polis, déférents, voire obséquieux avec moi. À se demander si je suis prisonnier ou invité. Je ne veux pas que vous vous inquiétez pour moi.
On ne s'inquiétera pas. On fera comme tu dis.
C'est très bien. Donne-moi le sac, s'il te plaît.
Tiens, papa.
Je vais voir s'ils vous ont donné la liste complète.
brosse à dents, du dentifrice.
Oui. Tout cela est bien réel. Papa a gardé son sens de l'humour. Il semble à l'aise. Il a déjà analysé tout ce qui l'entoure. Il crée une atmosphère presque joyeuse ici avec nous. Pourtant, je sens que quelque chose de tragique est en train de se produire. Demain, j'intégrerai l'UGIF.
Active depuis quelques mois au sein de l'Entraide temporaire, organisation clandestine qui aide au placement d'enfants juifs en zone non occupée, Hélène Behr s'inscrit comme bénévole au sein de l'Union Générale des Israélites de France. Créée par Vichy à la demande de l'occupant, l'UGIF est à la fois l'organe de représentation des Juifs de France et un centre d'assistance.
Il n'a pas eu de moment de panique ? Et il n'a réclamé personne ? Il est rassuré parce que l'opération s'est bien passée, oui, le petit bonhomme. Vous pouvez me rappeler en cas de besoin. Ah, toutes les infirmières me connaissent, d'accord. Bah, encore une et je ne vous embête plus. Vous êtes très aimable. La petite Anna Finkelstein, elle s'est fait opérer hier des végétations. Elle aussi, tout va bien ? Vous pouvez me rappeler... D'accord, je vous laisse, je libère la ligne. Bonne journée. Merci, au revoir. Bonjour, je peux vous aider ?
Vous devez être Françoise Bernheim. Je m'appelle Hélène Behr. Je viens de m'inscrire et M. Katz m'a dit de venir vous voir.
C'est une très bonne nouvelle, bienvenue. On peut se tutoyer, Hélène, c'est plus simple. Ici, tu sais, on aide comme on peut. Les personnes arrêtées, les familles, les enfants, les malades.
Comment je pourrais être utile ?
Là, je téléphone pour prendre des nouvelles des enfants hospitalisés, voir s'ils ont besoin de quelque chose. Tiens, voilà ce qu'on pourrait faire. Viens voir cette caisse. Nous recevons des objets que nous envoient des gens enfermés à Drancy. Là, une bague, des clés, il y a vraiment de tout. Hélène, tu ne te sens pas bien ?
Excuse-moi, c'est cette petite boîte blanche. J'ai le sentiment qu'elle vient de mon père.
C'est un lorgnon qu'il faut faire réparer. Ah oui, c'est envoyé par Raymond Behr.
Il vient d'arriver à Drancy.
C'est très dur. Courage. Tous ses proches arrêtés et nous obligés de porter cette étoile. Nous avons 20 ans et on nous empêche d'exister.
Je ressens exactement la même chose que toi. Nous perdons toutes les possibilités que nous avons en nous. Et tu es la première à qui je le dis, mais c'est difficile de voir que malgré leur sympathie et leur dégoût pour les Allemands, les gens qui ne doivent pas porter l'étoile ne peuvent pas comprendre ce que nous vivons. Et c'est dur de ne pouvoir en parler à personne.
Quel est ton métier ?
J'aimerais écrire une thèse en littérature anglaise. Pour l'instant, je suis interdite de passer l'agrégation. Mais je peux essayer d'écrire une thèse.
Ça doit être dur d'écrire.
Oh, j'aime ça. J'ai écrit une petite pièce de théâtre avec ma meilleure amie quand nous étions au lycée. Elle s'appelle Odile. Elle est partie avec sa famille depuis le 30 mars. On s'écrit le plus possible maintenant. Elle me raconte la zone non occupée, je lui raconte ici et j'écris un journal. Je raconte mes journées.
Mais tu es un vrai écrivain, dis-moi.
Surtout pas. Je suis incapable d'écrire ce journal dans l'idée d'être lu ou pour recevoir des éloges. C'est un orgueil que je n'ai pas.
Je suis très contente de te connaître. Allez, on continue de classer cette caisse et on va faire réparer le lorgnon de ton père.
Merci, Françoise.
La nouvelle ordonnance allemande du 9 juillet 1942 exclut les Juifs de quasiment tous les établissements publics. Une semaine plus tard a lieu la rafle du Veldiv. Alors que l'espoir de voir Raymond Behr libéré diminue chaque jour, toute la famille est tourmentée par l'idée que leur choix de ne pas avoir fui en zone non occupée puisse avoir des conséquences tragiques. Parallèlement, Hélène continue d'œuvrer au sein de l'UGIF auprès des enfants privés de parents, et elle vit une relation aussi intense que chaste avec Jean. Alors que les déportations de Juifs s'accélèrent, Raymond Behr est libéré le 22 septembre 1942. Hélène fait part de cette nouvelle à Jean, dans le parc de la propriété de famille à laquelle elle est passionnément attachée, située à Aubergenville, à 40 km à l'ouest de Paris.
Comment sent-il ?
Meurtri. Il a fallu que sa société paye une caution et qu'il s'engage à ne plus travailler. Monsieur Duchemin, le président de Kuhlmann, lui a conseillé d'accepter ce chantage ignoble. Il lui demandera de travailler depuis la maison. Mais il est aussi soulagé de ne plus être là-bas. Monsieur Duchemin a été formidable.
J'aimerais pouvoir vous aider, Hélène, et prendre une part de toute cette souffrance que vous ressentez.
Ma souffrance, pour moi, elle passe après celle des autres. Nous avons certainement mal fait de rester. Et je suis utile aux gens que j'aide. Et cela justifie d'être là. De toute manière, il n'y a rien à espérer et tout à redouter de l'avenir.
Hélène, ça me coûte de vous le dire, mais je vous le dois. Je vais partir.
Comment ça ?
Je vais quitter Paris.
Quand ?
Je sais pas exactement. Bientôt. Je vais essayer de rejoindre les forces de la France libre. En Afrique du Nord.
Ce doit être compliqué. D'y arriver.
Oui. Mais je vais essayer de faire le plus vite possible. Je le dois à mon pays. Quitter Paris et renoncer au moment que nous passons ensemble sera très difficile. Mais c'est un devoir.
Je vous comprends. C'est aussi pour toi que je souhaite rester à Paris. Et s'il t'arrive quelque chose, au sein de la France libre, nous ne nous serons fréquentés que quelques semaines, à peine quelques mois.
C'est notre secret.
Oui, Jean. C'est notre secret.
Hélène et son amie Françoise sortent de l'hôpital Rothschild. Hélène porte le petit Édouard qui s'est endormi dans ses bras.
Tu y arrives, Hélène ? Il n'est pas trop lourd ?
Le pauvre. Regarde-le, il est épuisé. Il était tellement heureux de s'endormir dans mes bras. Et moi, je suis si contente que ça soit pas grave.
Je le prendrai si ça devient trop difficile.
Il dort bien, là. Pauvre petit. Le métro n'est pas si loin.
Tu vas raconter ce périple dans ton journal ?
Je crois pas. Je crois que je vais arrêter de l'écrire.
Ah bon ? Je peux te demander pourquoi ?
Je n'ai plus l'envie. Une personne qui m'est très chère vient de quitter Paris et...
Et ?
Je crois que j'écrivais ce journal dans un sens pour qu'il sache qui j'étais. Lui parti, quel intérêt ? C'est enfantin et immature, je sais. Te moque pas de moi et... Tu le répètes à personne. Je crois que t'es la seule à qui j'en ai parlé.
Si tu devais en plus écrire toutes les horreurs auxquelles tu assistes, ça te les ferait revivre.
Mais aussi les instants merveilleux. Il y a des moments où un regard, une parole, un geste aide à supporter ce que nous vivons, directement ou pas. Et les rencontres aussi, Françoise.
C'est vrai ce que tu dis.
Si je le pouvais, je raconterais tout ce que je vois. Tant de personnes ignorent ce qui se passe, ou même qu'ils font le mal. S'ils le savaient, si on leur montrait, on aurait une chance qu'ils se réforment. Ce serait même la seule. Ce n'est pas par la guerre qu'on soignera les souffrances.
Le sang appelle le sang, je partage ton avis.
T'es bien la seule. Je me dispute sans arrêt à ce sujet avec ma famille et d'autres amis. Mon énergie, je veux la dépenser auprès de ces petits. Les soulager un peu.
Tu viens rue de la Bienfaisance demain ? Nous recevrons beaucoup de familles. Avec le rythme des arrestations et des déportations qui augmentent, encore plus, toujours plus.
Bien sûr que je serai là. Heureuse de partager ces moments avec toi.
Je suis dans ton journal, moi aussi.
Ça, c'est secret.
Attention, tu vas réveiller Édouard.
Alors que les arrestations de juifs se multiplient, touchant tous les milieux sociaux, les Français aussi bien que les étrangers, la famille Bert, contre l'avis de tous, persiste à rester à Paris, l'endroit auquel elle appartient, au milieu de son peuple, le peuple français. Même si les Bert ont conscience que leur arrestation peut se produire à tout moment. Hélène délaisse son projet de thèse. Elle ne joue plus de musique. Elle consacre tout son temps aux enfants de l'UGIF. Le matin du 30 juillet 1943, elle prend en charge l'un d'entre eux et l'accompagne à la gare. L'après-midi, à l'hôpital où elle assiste les enfants, une rumeur lui parvient.
Qu'est-ce que tu fais derrière la porte?
C'est bientôt l'heure du couvre-feu, je commençais à m'inquiéter.
Je suis passée chez mon amie Françoise.
Elle va bien?
Elle a été arrêtée. Elle est à Drancy.
Ah.
Arrêtée? Chez elle?
Au siège de l'IGIF, rue de Téhéran. Tout le monde a été arrêté. Nous allons essayer d'en faire libérer le plus possible.
Et toi, tu n'y étais pas?
J'accompagnais un enfant à la gare.
Tu as échappé par miracle, donc?
Par hasard, je préfère.
L'UGIF, c'est un phare dans la nuit, mais qui n'éclaire pas, qui autodésigne les proies. Venez nous chercher, nous sommes juifs, nous sommes tous ensemble, servez-vous.
Comme le siège est fermé, forcément, je me suis inscrite au centre de Neuilly.
Tu comptes y retourner?
Je ne peux pas laisser les enfants. Serais-je un jour révoltée contre mon sort? Ou bien chaque nouvelle épreuve est-elle un mal nécessaire pour me justifier, pour me purifier? Jean est parti depuis un an. Papa et maman ne m'en parlent jamais, ni de mon avenir, parce que je n'en parle pas, sûrement, à personne. Dans l'enfer où je vis, le retour de Jean sera ma résurrection, le symbole de la renaissance du bonheur, ou d'un bonheur pour tous. Pourtant, j'ai peur de ne plus être là quand il reviendra. Maintenant, nous savons que nous pouvons être arrêtés à n'importe quel instant. Françoise me manque aussi. Les souffrances qu'elle doit éprouver en déportation, celles des gens que je connais et que je ne connais pas, me hantent. Plus que les miennes, personne ne le comprend. Ma peine perpétuelle est sûrement la rançon de ma conscience du malheur de ceux qui souffrent.
En octobre 1943, Hélène Baer reprend la rédaction de son journal, interrompu depuis un an. Elle l'écrit pour témoigner, mais surtout pour que Jean sache qui elle était et ce qu'elle pensait si elle devait ne pas être là à son retour. Elle se consacre aux enfants, dont certains lui disent « Je ne savais plus pleurer tellement j'avais de chagrin » quand ils racontent la séparation d'avec leurs parents. Les récits d'arrestation d'enfants de 2 ans que l'on traque parfois dans des orphelinats persuadent Hélène de ce qu'elle nomme « l'inanité de notre prétendue civilisation ».
J'ai marché si longtemps que je suis arrivée à Auberge en ville. J'ai un lien charnel avec Paris. Mais ici, quelle joie, quelle beauté, quelle merveille. Tu es revenue depuis longtemps?
À l'instant.
Je suis ta première visite?
Bien sûr.
Tu m'as manqué, tout ce temps sans toi.
C'est pour toi que je voulais revenir, pour être et rester avec toi. Maintenant que la guerre est finie.
Oui, enfin. Mais... dis-moi, tu as tué des gens?
Non, c'était pas la peine.
Tant mieux. Tiens, qu'est-ce que c'est que ces personnes, là-bas?
C'est pour la garden party. La garden party d'Auberge en ville.
Ah, oui. Mes sœurs sont là. Denise a accouché. Yvonne est revenue. Je vais aller les aider.
C'est inutile.
Il faut s'occuper des invités.
Non. Occupe-toi de moi.
J'ai chaud quand tu me prends dans tes bras.
Hélène, je vais repartir.
C'est vrai?
Mais je reviendrai. Pour toujours.
Je t'attendrai. Je t'attendrai. Je t'attends. Tu es déjà partie?
Tout va bien, Hélène?
Pourquoi cette malle dans l'entrée?
C'est trop dangereux de rester ici.
Vous voulez partir? Je comprends. Moi, je dois rester à Paris. Je ne peux pas faire défection. Même si je ne veux pas être séparée de vous.
C'est trop compliqué de quitter Paris. Mais ton père pense que c'est plus sûr de ne plus dormir dans l'appartement.
Chaque soir?
Les arrestations se produisent surtout au domicile, sur dénonciation. Il y en a tous les jours. Ça se rapproche. Que faire s'ils sonnent? Ne pas ouvrir? Ils enfonceront la porte. Filer? Ils attendront sûrement derrière la porte de service.
Raymond, ça demande quand même une organisation compliquée.
Je suis allé à Drancy. J'ai vécu cela. Je ne veux pas le revivre. Et la déportation, tu y penses?
Papa a raison. Les traitements en Allemagne et en Pologne sont réputés très durs.
Alors, plus de soirées en famille.
Comment ça?
Tes sœurs et ton frère sont partis. Et si nous dormons ailleurs, tu seras de ton côté et nous du nôtre.
J'y ai beaucoup pensé. C'est très dur. Mais c'est la seule solution.
Je ferai comme tu dis, papa.
Tu peux aller dormir chez André. Elle est d'accord.
Elle est à la cuisine, là ? Je vais la voir.
André Bardiot, la cuisinière fidèle de la famille depuis des années, prépare le repas du soir.
Ma petite Hélène. Tes parents t'ont dit ?
Oui. Tu vas être obligée de m'accueillir chez toi.
Non, c'est petit, bien sûr. Mais c'est plus prudent. Tes parents ont raison. Avec tout ce qui se passe.
Tu as bien conservé toutes les feuilles de mon journal que je t'ai confiées.
Et il n'en manque pas une. Tu le reprends quand tu le souhaites. Il te suffit de me le dire.
S'il te plaît, vraiment. Si je suis pas là, à son retour, donne-le à Jean.
Mais tu me l'as dit 100 fois. Je suis pas sourde.
Je te donnerai des nouveaux feuillets. J'en ai écrit quelques-uns.
Tu peux compter sur moi.
Tu es une bonne personne.
À partir du 1er février 1944, la famille Baer décide de ne plus dormir que chez des amis ou des connaissances. Ils font une exception la nuit du 7 mars et sont arrêtés le lendemain matin à 8 heures. Transférés à Drancy, ils seront déportés pour Auschwitz dans le même convoi le 27 mars 1944, le jour du 23e anniversaire d'Hélène.
Ainsi, c'est arrivé. Rester était bien une folie. J'espère qu'ils relâcheront papa et maman. Et que Denise y échappera. Je vais endurer la même chose que tant d'autres. Affronter la souffrance physique pour la première fois. Je suis prête. Je veux vivre. Et je reviendrai, Jean. Je reviendrai. Je serai toujours près de toi.
Hélène Baer, française, juive et écrivaine, de Jean-Baptiste Sabiani, avec Hélène Baer, Élise Lomo, Jean Morawiecki, Jeremy Lewin, Madame Baer, Laurence Maslia, Monsieur Baer, Christian Gonon, Françoise Bernheim, Alice de Langsin, André Bardiot, Nathalie Lacroix. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Julien Douminc, Éric Villenfin et Adèle Cacheglar, assistante à la réalisation Justine Dibling, réalisation Cédric Ossir. Vous écoutez Autant d'emporter l'histoire, une émission réalisée par Audrey Ripouille, assistée de Frédéric Martin, à la technique Guillaume Roux. Tal Brutmann, Hélène Baer est arrêtée avec ses parents le 8 mars 1944 à 8h du matin à leur domicile où ils ont eu le malheur de venir passer une nuit. Sait-on s'ils ont été victimes d'une dénonciation ?
On n'a pas d'éléments tangibles pour le savoir. Et la question doit être posée, est-ce que c'est la réponse ? Ça, c'est extrêmement difficile de le savoir et il y a énormément d'éléments qui rentrent en jeu et puis il y a le facteur pas de chance aussi.
Ouais. Hélène Baer ne parle évidemment pas de cette arrestation dans son journal, mais le jour même, elle écrit une petite lettre au crayon à sa sœur Denise, qui donc n'a pas été arrêtée. Elle dit, entre autres, « Quoi qu'il arrive, nous avons bien l'intention de revenir » et elle ajoute « Je m'y attendais tellement ».
Ça reflète beaucoup de choses, d'ailleurs, c'est dit dans la pièce qu'on a entendue, mais elle arrête son journal et puis elle le reprend avec la volonté de témoigner en sachant que quelque chose de pas bon ou de mauvais allait arriver. Puis ensuite, plus on avance dans le temps, plus cette affirmation apparaît. Donc, il y a cette connaissance que quelque chose de dangereux se déroule.
Elle voit les arrestations autour d'elle, ça c'est
mais voir les arrestations, c'est une chose, entendre les rumeurs, y compris en France et enfin, à travers toute l'Europe, on sait que les Juifs sont tués. Pas forcément les Juifs de France, mais que les Juifs sont tués sur le front de l'Est, par exemple, les informations circulent. Mais après, quand on est confronté soi-même à l'idée d'un sort tragique, c'est une idée qu'on tente à repousser.
C'est pour ça qu'ils ne sont pas partis, qu'ils n'ont pas quitté Paris ?
C'est extrêmement difficile de se mettre à leur place, déjà.
Ouais.
Mais il y a cette idée que ce qui est en train de se passer ne concerne pas, et c'est une erreur tragique, par exemple, les Juifs français... ce qui a été l'erreur de beaucoup de Juifs français initialement avant qu'ils finissent par comprendre à cause des arrestations qui se multipliaient pour une partie d'entre eux. Il y a l'idée que ça va passer à côté, y a un élément qui souvent frappe l'entendement quand on voit le chiffre. Il y a plus de 60 000 personnes à Paris qui portent l'étoile en 1944, après 4 ans de persécution. Pourquoi ? Parce qu'elles se conforment à la loi, elles ont peur d'être arrêtées pour défaut de port de l'étoile. Nous, ça peut nous paraître absurde de se dire, mais ils portent un symbole qui va les faire arrêter.
Il y en a beaucoup qui ont arrêté de le porter. Aussi.
Exactement, il y en a beaucoup qui arrêtent de le porter, qui plongent dans la clandestinité, qui quitte Paris, et d'ailleurs dans le journal à plusieurs reprises il y a cette question, faut-il rester ou faut-il partir? Mais il n'y a pas de bonne réponse, parce qu'il y a des dizaines de milliers de juifs qui ne vont pas être arrêtés à Paris et vont être libérés au moment de la libération de Paris, et il y en a qui vont quitter Paris et qui vont être arrêtés à Lyon, à Marseille, à Bordeaux,
ou en passant
Brest,
la ligne de démarcation.
Ou en passant la ligne de démarcation, donc il n'y a pas une recette pour survivre.
Ce qui est étonnant dans le livre, dans ce journal d'Hélène Baer, c'est donc au fil des mois, sa conscience va de plus en plus aiguë, elle prend conscience de ce qui va lui arriver si elle est arrêtée, elle sait donc qu'il y a la mort au bout de la déportation, et elle évoque aussi beaucoup la question de l'indifférence des autres, des non-juifs, qui ne comprennent pas, dont elle ne veut pas la pitié, mais dont elle attend une compréhension, une attention.
Et en fait, ce qu'elle constate, c'est la manière dont on se heurte à des gens qui vivent une autre réalité, parce que la réalité à laquelle sont soumis les juifs dans la France occupée, c'est une réalité qui est totalement différente au sens où le chronomètre, l'horloge, ne tourne pas à la même vitesse. Et là où les autres qui peuvent faire preuve de pitié, de considération pour les juifs, ne comprennent pas cela, les juifs, eux, en revanche, comprennent qu'ils sont soumis à une sorte de chronomètre qui ne s'arrête pas et qui les emmène vers une mort inéluctable quand ils en ont conscience. Et plus on approche de ce qui va être la fin, l'arrestation, plus on se rend compte qu'elle prend conscience de cette réalité-là, que le compte à rebours est vraiment enclenché, que ça va de plus en plus vite.
Elle pense aussi à l'avenir, Hélène Baer, elle dit « Quand tout cela sera devenu de l'histoire, ceux qui la rient durement en parole, sauront-ils ce qu'une ligne de leur exposition recouvre de souffrances individuelles, ce qu'il y a en dessous de vies palpitantes, de larmes, de sang, d'anxiété ?» C'est fou parce qu'elle pense aussi à ce qu'on dira de tout ça, est-ce qu'on aura conscience des souffrances vécues ?
Elle pense à l'après avec ou sans elle, d'ailleurs c'est pas évident qu'elle s'envisage dans l'après, mais oui, on a affaire à quelqu'un d'une intelligence qui est remarquable, qui quand elle écrit, n'écrit pas que le présent, mais pense aussi l'avenir.
Donc ils vont être transférés à Drancy et déportés à Auschwitz le 27 mars, le jour précis des 23 ans d'Hélène, et on sait qu'elle sera donc déportée à Auschwitz-Birkenau. Ses parents vont mourir assez rapidement, elle va survivre jusqu'en 1945.
En avril 1945, en fait son père, on a des traces assez tangibles de son père et même quelques témoignages qui concernent le sort de son père, et il finit par mourir. Alors visiblement il a été, quand ils arrivent à Birkenau, le père est envoyé au camp de Monowitz, c'est-à-dire Auschwitz III, là où se trouve par exemple Primo Levi, il meurt là-bas. Elle va survivre à Auschwitz, elle va être transférée lors des marches de la mort jusqu'à Bergen-Belsen, et elle va mourir à Bergen-Belsen du typhus, des conditions dramatiques dans lesquelles ces transferts ont eu lieu, et les conditions de détention de Bergen.
Hélène Baer savait qu'elle pouvait être arrêtée, qu'elle pourrait ne pas revenir, donc ce journal, comment est-il arrivé jusqu'à nous, ce journal? Elle voulait que Jean sache ce qu'elle pensait pendant toute cette période. C'est la bonne André Bardiot qui l'a gardée et qui l'a donnée donc à Jean quand il est revenu des forces françaises libres.
Alors, la bonne le transmet, mais en plus, visiblement, une secrétaire de chez Kuhlmann a retranscrit le journal qui va connaître, d'une certaine façon, deux vies. D'une part, une vie dans la famille d'Hélène Baer, et le journal va être remis à Jean. Et donc, le journal disparaît. Et Mariette Job, qui est une descendante...
Donc la nièce d'Hélène Baer,
qui est
la fille de Denise.
Denise Baer, devenue Denise Job, va se mettre en tête au début des années 90 de retrouver ce journal. Elle a l'idée de chercher la trace de Jean. Elle le contacte à travers le ministère des Affaires étrangères puisqu'il est devenu diplomate. Jean, lui, la recontacte, lui remet le journal. Mariette Job va venir remettre ses documents pour qu'ils soient préservés, le mémorial de la Shoah. Et au bout de quelques années, elle et Karine Taïeb, qui est la responsable des archives du Centre de documentation juive contemporaine, vont se mettre en tête de le publier.
Merci beaucoup Tal Brutmann. Je signale que depuis 2002, le Mémorial de la Shoah est officiellement propriétaire du journal d'Hélène Baer. Ce livre est disponible aux éditions Talendier, avec la préface de Patrick Modiano et la postface de Mariette Job, donc la nièce d'Hélène Baer, qui est autrice aussi en 2022 de Dans les pas d'Hélène Baer, aux éditions du Bordelot, où elle raconte le long chemin qui a conduit à la publication du journal. Et Tal Brutmann, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la Shoah. Je signale le plus récent, coécrit avec Stefan Hördler et Christophe Kreutzmüller, un album d'Auschwitz, Comment les nazis ont photographié leurs crimes, aux éditions du Seuil en 2023. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui d'Autant n'importe l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster, sur notre site radiofrance.fr où j'attends comme toujours vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Samedi prochain, nous partirons au 19e siècle en compagnie de Gustave Eiffel, le fameux ingénieur, le concepteur et créateur de la tour qui porte son nom et lui porte immédiatement la gloire en 1889. Mais quelques années plus tard, il va être mêlé à un scandale, l'affaire du Panama, qui pendant quelques années mettra à mal sa réputation. Gustave Eiffel et le scandale du Panama, c'est samedi prochain, 15h, sur France Inter.